L'information continue sur RFI avec le rendez-vous d'Haïti des Amériques. Avec vous, Michael Ponge, bonjour.
Bonjour Gilles, merci. Les 9h10 à Atlanta. Zoom sur la Géorgie est à clé des prochaines élections de mi-mandat aux États-Unis. La Géorgie qui vote ce mardi pour des primaires. Les bureaux sont ouverts depuis 2 heures. On est sur place. On ira aussi à Port-au-Prince rejoindre Godson Pierre d'Alter Press comme chaque mardi pour l'actualité haïtienne. Et puis, la variole du singe serait-elle arrivée en Guyane? Ce sera à la une du journal de la première avec vous, Alex Léveillé.
Avec 2 cas suspects qui sont en cours de vérification et nous irons ensuite en Guadeloupe pour parler du cancer de la prostate.
Rendez-vous dans une quinzaine de minutes. Alex et bienvenue à tous.
RFI, The World's Voices.
Léger retour dans le passé pour commencer. Souvenez-vous, c'était en novembre 2020 lors de la présidentielle aux États-Unis. Joe Biden est le sortant d'alors. Donald Trump au coude à coude dans l'état de Géorgie. Décompte et recompte et re-recompte. Ça n'en finissait pas. Et puis le résultat est tombé. Pour la première fois en 60 ans, l'état conservateur du sud-est américain votait pour un président démocrate. Alors c'est peu dire que la Géorgie sera scruté à la loupe en novembre prochain au moment des élections de mi-mandat. Ce mardi d'ailleurs, les partis élisent dans le cadre de primaires ceux qui brigueront dans 6 mois le poste notamment de sénateur et de gouverneur de l'État. Bonjour Marie Normand.
Bonjour Mickaël.
Vous êtes en ligne avec nous d'Atlanta, envoyé spécial de RFI en Géorgie. On va détailler ensemble dans un instant les enjeux de ces primaires. Mais d'abord, votre reportage tourné hier, vous avez suivi le dernier jour de campagne de ceux qui briguent côté républicain l'investiture pour le poste de gouverneur.
Dernier meeting pour le gouverneur sortant, Brian Kemp, avec en guest star un soutien de poids.
Nous sommes particulièrement honorés de recevoir ce soir mon ami Mike Pence.
L'ancien vice-président a donc fait le déplacement pour donner un coup de pouce à celui qui est en tête des sondages. Pourtant, la bête noire de Donald Trump, depuis qu'il a refusé d'invalider les résultats de la présidentielle en Géorgie en 2020. Un sujet soigneusement évité par Brian Kemp comme par les militants, à l'image de Martine, 25 ans.
Les gens regardent davantage les bilans des candidats que leur soutien. Le gouverneur Kemp avait fait campagne sur la réduction des impôts et il a fait le job.
Toujours dans la banlieue d'Atlanta, son adversaire, David Perdue, profite d'un dernier bain de foule dans un café. Il critique les médias, conspue les fake news et les derniers sondages. Même rhétorique que Donald Trump, qui l'a poussé à se présenter. Les soutiens de David Perdue, comme Michael, veulent d'ailleurs tous rejouer le match de 2020.
David Perdue va défendre l'intégrité des élections. Lorsque nous avons eu besoin du gouverneur Brian Kemp en 2020, il était aux abonnés absents et ne nous a pas soutenus alors que la majorité d'entre nous en avait besoin.
Pour lui, voter Perdue, c'est voter contre l'establishment. Il précise qu'il s'abstiendra en novembre si son candidat perd la primaire républicaine.
Et voilà donc comment derrière les primaires de ce mardi se joue aussi la primaire républicaine pour la présidentielle de 2024. Marie, on l'a bien compris dans votre reportage, ce n'est pas la seule raison évidemment pour laquelle les scrutins de ce jour sont très suivis aux États-Unis. Marie, expliquez-nous d'ailleurs pourquoi c'est important de garder un œil ce mardi sur la Géorgie.
Eh bien parce que ça va permettre d'apercevoir le paysage politique en Géorgie, les forces en présence dans cet état clé, vous l'aurez compris, un état violet, on dit ici, c'est-à-dire moitié bleu démocrate, moitié rouge républicain. Alors côté démocrate, justement, pas vraiment de suspense, il n'y a souvent qu'un seul nom ou un seul nom d'importance sur le bulletin. Et cette primaire, elle va surtout permettre d'évaluer le moral des troupes, la mobilisation des électeurs. Et il y a beaucoup de travail, m'expliquaient des militantes démocrates hier, tout est à refaire depuis la grande mobilisation contre Donald Trump en 2020. Le soufflet est un peu retombé et de nombreux électeurs se disent même déçus aujourd'hui de la politique de Joe Biden. Côté républicain, il y a plus d'enjeux, un peu plus d'engouement aussi, bien que les meetings ne fassent pas sale comble, comme hier celui du gouverneur sortant Brian Kemp. Plusieurs candidats pour chaque poste, soutenus ou non d'ailleurs par Donald Trump.
Donc Marie, qu'on comprenne bien, il y a plusieurs primaires en fait aujourd'hui. D'abord pour le poste de gouverneur, on l'a dit, mais aussi pour le poste de sénateur, celui qui siégera donc à la Chambre haute à Washington.
Oui, et les républicains veulent absolument le récupérer, les démocrates le conserver pour ne pas perdre leur majorité au Sénat. et leurs sénateurs qui se représentent. Donc le pasteur Warnock est en grande difficulté actuellement. Il est très critiqué par les conservateurs, notamment pour sa défense du droit à l'avortement alors qu'il est pasteur. En face de lui, il y a le républicain Herschel Walker qui semble se détacher. On aura la confirmation ou non ce soir. C'est une ancienne star du football soutenue par Donald Trump qui promet, entre autres, d'interdire totalement l'avortement en Géorgie.
Le droit à l'avortement, Marien, qui est devenu véritablement un sujet central de cette primaire, les questions d'inflation, d'emploi, de lutte contre la criminalité, elles ont été éclipsées après les révélations de la presse concernant le possible revirement de la Cour suprême sur l'arrêt fédéral qui garantit l'IVG. La décision est attendue d'ailleurs dans quelques semaines. Quel impact cela a-t-il eu sur la campagne en Géorgie ?
Alors depuis plusieurs jours, tous les candidats se sont positionnés sur la question. Les démocrates s'en servent justement pour mobiliser les électeurs. Il faut absolument, disent-ils, placer des démocrates partout, au Sénat, au poste de gouverneur, mais aussi au Congrès local qui est chargé de légiférer sur la question. Sans oublier le poste de procureur général, un scrutin oublié hein, en temps normal, mais qui là prend une toute autre dimension puisque c'est le procureur général qui sera chargé d'appliquer la loi. Et si la Cour suprême revient sur sa jurisprudence, comme on l'attend dans quelques semaines, c'est une loi signée en 2019 qui sera appliquée ici en Géorgie, signée par Brian Kemp, le gouverneur républicain actuel. Elle interdit les interruptions volontaires de grossesse à partir de la première activité cardiaque du fœtus autour de 6 semaines, avant même souvent que les femmes sachent qu'elles sont enceintes. Alors sauver le droit à l'avortement, c'est la priorité de plusieurs militantes démocrates que j'ai interrogées hier dans le nord d'Atlanta. Écoutez, Sheila Ford, elle a 58 ans.
Je suis très attachée à la possibilité de choisir. Et plus j'y réfléchis, plus je suis en colère. Parce que cette loi va clairement à l'encontre des femmes. Il ne s'agit pas de défendre des bébés. Et j'en suis arrivée au point où j'ai fait asseoir mes enfants un jour pour parler. Ce sont des garçons, donc ils sont bien une partie de l'équation. J'ai essayé de leur faire comprendre qu'il fallait qu'ils s'engagent pour placer les bonnes personnes au pouvoir pour que cette menace sur le droit à l'avortement soit levée.
Et son amie Déborah, juste à côté d'elle, m'expliquait qu'il n'était pas forcément évident, hein, d'ailleurs, de mobiliser des jeunes qui ont toujours vécu, eux, avec le droit à l'avortement. Elle s'est assurée que ses enfants aillent voter, mais elle sent bien qu'ils ne sont pas vraiment intéressés.
La question de l'avortement, Marie, qui mobilise hein, aussi, bien sûr, côté républicain.
Oui, cela galvanise les électeurs républicains dans cet état très religieux. Le président d'un lobby chrétien conservateur que j'ai rencontré hier me disait sa joie d'abord, mais aussi lui aussi la nécessité de placer des élus républicains partout en Géorgie pour s'assurer qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Il veut même aller plus loin, pourquoi pas jusqu'à l'interdiction totale de l'avortement dès la conception, comme cette loi qui a été votée en Oklahoma. Mais attention, la question de l'avortement pourrait aussi être à double tranchant pour les républicains, constituer un frein dans leurs efforts de séduction des indépendants et puis de reconquête des républicains plus modérés qui se sont tournés vers les démocrates pendant les années Trump.
L'avortement qui est aussi un enjeu des élections, des primaires au Texas, second tour ce jeudi. Sachez que l'on vote aussi pour des primaires également en Alabama et en Arkansas. Marie Normand, vous étiez vous en direct d'Atlanta en Géorgie, envoyée spéciale de RFI. Merci beaucoup. Et on reste encore un instant aux États-Unis avec vous, Harim Lipold, bonjour.
Bonjour Michael, bonjour à tous.
Cela fera 2 ans demain.
Oh my God, I can't believe this.
2 ans que George Floyd a prononcé ces mots, je ne peux pas respirer avant de mourir, plaqué au sol, étouffé par le genou d'un policier blanc. S'en est suivi alors un mouvement de protestation sans précédent aux États-Unis et à travers le monde. Harim, 2 ans après la mort de l'Afro-Américain, la presse a enquêté sur la situation des Noirs américains à Minneapolis, la ville où tout s'est passé.
Oui, exactement. Et selon le Washington Post, Michael, eh bien, les choses n'ont pas vraiment changé. En tout cas, si on croit les témoignages, je pense que le cœur y est. Les gens souhaitent que la situation s'améliore pour nous, mais dans les faits, il n'y a rien de concret, explique par exemple un militant afro-américain dans le journal le Washington Post. Selon le quotidien, le comportement de la police de Minneapolis n'a pas non plus changé depuis la mort de George Floyd. Des rapports internes montrent que les agents continue à discriminer les Afro-Américains et il se montre aussi beaucoup plus violent avec les Noirs qu'avec les Blancs, selon le journal.
En revanche, Harim, ce qui a changé, c'est le discours de Joe Biden.
Oui, mais pas dans le sens que certains l'auraient espéré. tant que candidat, il demandait une réforme de la police, mais après la mort de George Floyd, mais aujourd'hui, installé à la Maison-Blanche, il encourage plutôt les villes à embaucher plus de policiers, écrit le Washington Post. Le quotidien estime que Joe Biden aurait très bien pu décider de réformer la police par décret, mais la Maison-Blanche a jugé qu'une telle mesure sera trop risquée en cette année électorale. Les républicains tentent de mettre les démocrates sur la défensive en les présentant comme ceux qui veulent désarmer la police, qui provoquerait, toujours selon les conservateurs, une vague de violence dans le pays.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
C'est à lire encore du côté de la presse américaine. Arim, grande enquête au sujet de l'occupation des États-Unis en Haïti au début du XXe siècle.
Exactement, grande enquête, un dossier publié par le New York Times à lire en anglais, en français et en créole. Le journal a consulté de nombreuses archives et retrace l'histoire de l'occupation américaine en Haïti qui a duré 19 ans de 1915 jusqu'en 1934. C'était l'une des plus longue occupation militaire de l'histoire des États-Unis, écrit le New York Times. Après le départ des troupes, des financiers américains continuaient de tenir les cordons de la bourse du pays pendant encore 13 ans, car la raison de l'invasion a été bel et bien économique, écrit le New York Times officiellement. Il s'agissait de sécuriser un pays politiquement et économiquement instable, mais en vérité, c'était Wall Street et notamment la National City Bank of New York qui poussait le gouvernement américain à envahir Haïti. Les États-Unis ont laissé le pays exsangue. La plupart des paysans ont vécu dans un état proche de la famine, selon un rapport de l'ONU de 1949.
Restons en Haïti avec l'actualité du jour. On est en ligne à présent avec Godson Pierre, le rédacteur en chef du site Alter Press. Bonjour Godson.
Bonjour Michael.
La politique d'abord. Les discussions entre le Premier ministre Ariel Henry et les dirigeants de l'accord de Montana se poursuivent en dépit, Godson, des réticences parmi les signataires de cet accord qui, on le rappelle, propose une transition politique de rupture.
Le dialogue est incontournable pour la simple et bonne raison que l'État s'est effondré, la société est affaiblie, la domination externe et interne est sans borne, tandis que la souffrance de la population est terrible. C'est ce qu'explique Ernst Mathurin, dirigeant de Montana, dans une interview qu'il nous a accordée après des réunions en tête-à-tête entre le premier ministre de facto et Magali Komodeni du mouvement Montana autour de la reprise du dialogue. Eh bien, des échanges de documents ont eu lieu entre les deux parties et certains membres de Montana, en effet, mettent en garde contre les négociations pour un éventuel partage de gâteaux, mais nous ne pouvons pas déterminer à l'avance les résultats du dialogue politique. Ce serait sous-estimer l'autre, mais l'autre ne doit pas s'imaginer que son pouvoir de fait lui permet d'imposer ses dictats. C'est ce que martèle l'ingénieur Mathurin.
À la une d'Alter Press aussi aujourd'hui, Godson, la question de l'accès aux soins de plus en plus problématique en Haïti du fait des kidnappings quotidiens. Les personnels médicaux sont de plus en plus visés et Médecins sans frontières notamment le dénoncent.
Au moins 4 hôpitaux ont été temporairement fermés en soutien de leurs collègues récemment kidnappés, alors qu'une grève s'annonce pour dénoncer ces crimes. C'est ce que relève l'organisation Médecins sans frontières. De plus, beaucoup de leurs patients s'orientent vers d'autres centres qui voient leur capacité d'accueil saturée. Ces derniers jours, les actes de kidnapping se sont multipliés en Haïti, particulièrement dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Plusieurs médecins se trouvent aux mains de kidnappeurs.
Enfin, au sujet de grève, Godson, justement aussi, les douaniers haïtiens sont appelés à la grève. Expliquez-nous.
Il s'agit d'un mouvement de protestation contre une intervention d'agents de l'unité de lutte contre la corruption, ULCC, dans l'institution. Le vendredi 20 mai dernier, l'ULCC a effectué une fouille dans les bureaux de la douane dans le cadre d'une enquête autour des suspicions de corruption. Cette enquête concerne le directeur général de l'administration des douanes, Romel Bell.
Et tout ça est donc à lire aujourd'hui sur votre site Alter Press. Godson Pierre, le rédacteur en chef en ligne avec nous de Port-au-Prince. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. 10h24 à Brasilia. Arim, on est au Brésil où le président Bolsonaro a limogé hier le patron du géant pétrolier Petrobras. Il était en poste depuis seulement 40 jours.
Oui, une décision purement électorale, analyse le site d'information Au Globo. Jair Bolsonaro est préoccupé par la hausse du prix des carburants. En début du mois, Petrobras a augmenté le prix du gazole de plus de 8%, ce qui a provoqué la colère du président Bolsonaro, écrit Carta Capital. D'après Folha de São Paulo, le gouvernement cherche à présent un moyen de geler le prix des combustibles, en tout cas pendant cette année électorale.
Enfin, premier bilan, cela fait un an que Guillermo Lasso a pris les rênes de l'Équateur. La presse dresse le bilan de cette première année présidentielle.
Oui, bilan mitigé, à en croire le journal El Universal, qui reconnaît le succès de campagne de vaccination contre le Covid, mais malgré les annonces du gouvernement qui dit avoir généré plus de 300 000 emplois, la situation sur le marché du travail, eh bien, elle reste dramatique. Seulement un Équatorien sur trois bénéficie d'un emploi stable, ce qui pèse également sur la balance lourdement. C'est le comportement politique du président, selon le politologue Franklin Ramirez Flaxo.
Il
a fait voter des lois par décret, s'appuie sur des majorités fluctuantes, utilise la justice pour faire pression sur ses adversaires politiques, ce qui n'est pas vraiment un comportement démocratique, selon cet analyste interviewé par Ana Maria Ospina du service espagnol d'RFI.
Et merci à vous, Arim Lipold, pour la presse.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec Alex Léveillé, bonjour Alex.
Bonjour Mickaël.
On en parle beaucoup hein, ces jours-ci, la variole du singe, est-ce qu'elle serait arrivée en Guyane ?
C'est en tout cas ce qu'a révélé l'Agence régionale de la santé en Guyane hier. Deux cas suspects sont en cours de vérification. Les explications de Francky Moubenga, médecin à l'ARS.
Pour ces deux cas suspects, un, il y a eu des prélèvements et ces prélèvements ont été transmis au laboratoire qui a la capacité de diagnostiquer, de dire si oui ou non, dans les prélèvements qui ont été faits, le virus qui cause la variole du singe ou les monkeypox a été identifié. En attendant ces résultats de ce laboratoire, on ne peut pas dire que ce cas suspect est un cas confirmé du monkeypox. Sur la base de la clinique, c'est-à-dire des symptômes, des plaintes du patient et de ce qu'il présente sur son corps, on a fait ce qu'on appelle une hypothèse diagnostique. Donc, on a pensé que ça pouvait être de la variole du singe. Voilà pourquoi on a fait ces prélèvements pour confirmer au laboratoire. Et à l'heure actuelle, on est en attente de cette confirmation.
Francky Moubenga, médecin à l'ARS de Guyane, tête au micro de Vanessa Etienne de Guyane la Première. Et les analyses ont été envoyées dans l'Hexagone. Les résultats sont attendus la semaine prochaine. Nouvelle découverte en matière de cancer de la prostate. Des chercheurs britanniques viennent d'identifier 5 bactéries à l'origine de l'agressivité du cancer de la prostate. Le cancer de la prostate qui est d'ailleurs l'une des principales causes de décès en Guadeloupe. Franck Aristide de Guadeloupe la Première.
Hanay, Rhococcus, Phenolaria, Peptonophilus, Porphyromonas et Fusobacterium, ce sont elles qui pourraient expliquer pourquoi certains cancers de la prostate sont plus agressifs que d'autres. Des scientifiques britanniques viennent d'identifier ces 5 genres de bactéries couramment présentes dans les échantillons d'urine des patients touchés par cette pathologie. En les utilisant comme biomarqueurs, elles pourraient donc également avoir une utilité dans le pronostic potentiel. L'implication de bactéries dans le développement de certains cancers est étudiée depuis longtemps et le lien était déjà prouvé, par exemple dans le cas de l'Helicobacter pylori et du cancer de l'estomac ou du papillomavirus et du cancer de l'utérus. Cette fois-ci, c'est donc un nouvel organe qui pourrait être victime d'autres bactéries, celle-ci étant connue pour se loger dans la région urogénitale et le tissu prostatique. Les chercheurs ont donc voulu comprendre s'il existait un lien entre leur présence et le développement ou la progression du cancer de la prostate. Il s'agit du cancer le plus fréquent chez l'homme, encore plus chez l'homme noir. Chez nous, le rôle du chlordécone dans le déclenchement de la maladie avait également déjà été largement prouvé.
Franck Aristide de Guadeloupe, la Première. Et les résultats de ces travaux sur le cancer de la prostate sont à retrouver dans la revue médicale européenne Urologie Oncologie. Voilà, c'est la fin de cette édition. Excellente journée à tous.
Merci beaucoup Alex Léveillé, à vous et aux équipes de La Première qui refermaient comme chaque jour ce rendez-vous d'Haïti et des Amériques qui était réalisé aujourd'hui par Hélène Avril. On se retrouve demain pour une nouvelle édition, en attendant celle du jour. Et toutes les autres sont à retrouver, vous le savez, sur RFI.fr et toutes les plateformes de podcast. Très bonne journée à tous.
Rejoignez la communauté de RFI sur les réseaux sociaux.
Sur nos pages Facebook, vous pouvez suivre, commenter l'actualité et dialoguer avec vos animateurs préférés. Restez aussi connectés avec nous sur Twitter et découvrez nos dernières images sur le compte Instagram de la Radio Mondiale.